franceinter.fr.
Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui, après les Conti. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Marie-Yannick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Après les Conti, cette fiction va tenter de répondre à une question. Y a-t-il un après possible? Que se passe-t-il pour les ouvriers d'une usine qui ferme? À quelle vie peuvent-ils rêver? Quelle lutte peut les aider? Après des mois de bataille, une usine en grève, le monde des ouvriers s'écroule. Se succèdent alors les négociations et les chantages, les menaces et les cris de victoire, le chômage, les retraites anticipées, les négociations de départ, les congés de reconversion et Pôle emploi. Il va falloir que tout s'y fasse, oublier le passé, les heures glorieuses, l'usine. La lutte des Conti en 2010 a été une révolte longue, opiniâtre, syndicale, populaire et radicale. Plusieurs mois de conflits, de manifestations, de rencontres, d'une colère cathodique dans la sous-préfecture, de longues négociations, puis de la fermeture inéluctable. Alors c'est ça, la fin d'un monde, tout s'efface. Comme chez Danone en 2001, 570 suppressions d'emplois à Calais, ou chez Airbus en 2007, 1500 suppressions de postes à Toulouse. PSA, d'Aulnay en 2011, 1227 licenciés, et tout près des Conti, la fermeture de Goodyear et le licenciement de 1143 ouvriers en 2014. Cette liste est loin d'être exhaustive, plusieurs autres sites ont fermé ou sont menacés pour toujours. Toujours plus de rentabilité. Si les marchés financiers et les actionnaires semblent se porter mieux, les licenciés, eux, sont avec le temps qui passe encore plus fragilisés, oubliés. Notre invité aujourd'hui, Pierre Sommet, que nous retrouverons après la fiction, était secrétaire du comité d'entreprise de Continental. Et voilà ce qu'il dit dans une interview donnée en 2013. Le plan social de 2009 chez Continental a laissé 500 personnes sur le carreau. Depuis, on compte plusieurs centaines de divorces et plusieurs suicides. En août 2014, un salarié sur cinq parmi ceux pointant à Pôle emploi va basculer dans l'allocation de solidarité spécifique, 15,90€ par jour. Les situations familiales se détériorent, certains se sont mis à boire. Face au voyeurisme médiatique, la retenue est aujourd'hui de mise. On ne parle plus devant les enfants pour les préserver. Chez moi, nous avons mis longtemps avec mon épouse pour évoquer la situation devant eux. Mais les petits parlent à l'école. Et les miens me reprochent de ne pas être assez souvent présent. Vous savez, c'est dur d'affronter le regard d'un enfant quand on n'a pas de quoi lui payer un tour de manège.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Après les Conti, de Marie-Yannick Bello.
Tu sais pourquoi on t'a fait venir, Samia?
Non.
Pendant ton arrêt de travail, on a mis un nouveau sur ton poste. Tu peux m'expliquer ces chiffres? Vas-y, lis tout fort.
Yvan Boulanger, moyen de production journalière, 575 pneus. Mmh. Samia Sommet, moyen de production journalière, 509 pneus.
Mmh. C'est quoi le problème?
Où tu vois un problème?
Tu vois pas de problème.
Bah non. Bah regarde mon contrat, vas-y, lis tout fort. Tu veux pas lire? C'est marqué. Objectif journalier, 509 unités. Je fais combien? 509 unités. Il n'y a pas de problème.
Mmh. Alors comment que t'expliques que le petit nouveau, là, il te mette 66 pneus dans la vue?
1. Il a 22 ans. 2. Il veut être intégrant CDI. Et puis, il n'a pas tout compris à comment ça fonctionne les primes avec votre base de calcul. Ça va lui faire tout drôle quand quelqu'un va lui expliquer que grâce à lui, dans 2 mois, la base, elle passe de 509 à 560. Et qui touchera plus rien pour les unités qui seront en prime.
Ouais, ben moi j'ai une autre explication. 1. T'es pas motivé. 2. T'es représentante syndicale et tu te crois au-dessus des autres.
Je suis 1m85, mais je me crois pas au-dessus.
Ouais, ben je te parle en tant que chef d'atelier. T'as pas l'air motivé, Samia. Non, le fond du problème, c'est que tu démotives les autres.
Ben voyons.
On est sympa, t'as envie d'en faire le moins possible, de venir le moins possible, et ben tu viendras faire les 3-8 le week-end. On t'a affecté en équipe B.
Merci les gars. Si c'est terminé. J'y vais. Je voudrais pas faire baisser ma moyenne horaire.
On te dit ça, Samia, c'est pour toi. Moi, je te parle en tant que chef d'atelier. C'est toi qui vas voir les emmerdements.
J'avais bien compris.
Qu'est-ce qu'ils te voulaient, Bernier et Pupus?
Rien, me faire chier. femme et représentante syndicale, ça leur fait trop à la fois. Prochaine fois, je mettrai les seins dans le dos, ils me regarderont peut-être dans les yeux. À quoi je pense quand je fais 509 pneus ? 509 pneus. Au tout début, j'étais concentrée sur ce que je faisais. Attraper, faire la soudure, faire tourner, plonger, cuire, faire tourner. Les soudures au bon endroit, comme de la haute couture. Viser un point précis. Te dire, c'est le meilleur pneu. Se dire que le conducteur de Mercedes ou de Toyota qui roulera avec ce pneu, peut-être ce pneu lui sauvera la vie, tellement il est bien fait. Imaginez sur la route, filant. À sa droite, une forêt pleine d'ombre. La route comme un trait noir et argent devant lui. Lui ou elle, les mains sur le volant. Le ciel qui s'ouvre entre deux montagnes. Souder, rêver, s'appliquer. Mais très vite, les mains travaillent toutes seules. Les épaules tirent. Les pieds bougent dans un espace trop petit, on est à l'étroit. Deux pas en arrière, un pas à droite, 10 secondes d'immobilité, retour en avant. Je pense à mes filles. Je pense aux rumeurs qui disent qu'ils vont fermer l'usine. Et puis que non, parce qu'ils viennent d'acheter du matériel pour 150 000 euros. Et puis que si, parce qu'un pote syndicaliste qui travaille dans une boîte de reclassement a vu passer leur commande. Ils vont bien fermer quelque chose, donc. L'usine ici, l'usine à côté, en Allemagne. S'ils pouvaient fermer leur gueule un peu, quand ils nous font la morale comme quoi on n'est plus sur le podium des 3 meilleures usines du groupe. On dégage 45 millions de bénéfices, et pour eux, c'est que dalle, 45 millions. 45 millions, ça en fait des salaires de smicards. Et puis c'est 6 heures du matin. J'ai fini ma journée. Je rentre me coucher. Je me glisse dans mon lit quand d'un coup le téléphone sonne. J'ai dormi 2 heures. Ils s'en foutent pour eux, c'est le matin. Le soleil brille, brille, brille. Il y a réunion d'urgence avec la direction d'utilité et les représentants syndicaux. Ben voilà, je l'ai ma réponse. Le grand patron venu tout droit d'Allemagne nous annonce, main sur le cœur et pas aller dans le cul, qu'il va fermer l'usine. En entier. Et tant pis pour le matos à 150 000 boules qui n'aura même pas été déballé. Et tant pis pour les 1300 salariés qui vont rester sur le côté. C'est notre faute. On n'avait qu'à être sur le podium après tout. Putain. J'ai même plus envie de me recoucher.
On peut les faire bouger. À condition de rentrer dans un rapport de force.
Un rapport de force de quoi ? Tu vas casser la préfecture ?
Les patrons, que tu casses la sous-préfecture, ils en ont rien à foutre. Il faut les taper là où ça fait mal. Il faut les taper au portefeuille.
Ça joue les gros bras et c'est creux comme un radis.
Tu dis quoi, là ?
Tu sais très bien qu'à la fin, vous allez le signer, l'accord. Utility a fermé 30 usines en 10 ans. Ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent.
Arrêtez, les gars.
D'accord, la solidarité, c'est du pipeau. La négo pour le retour aux 40 heures. Chaque syndicat y est allé pour sa pomme. On a vu ce que ça a donné. Soit vous vous battez ensemble, soit vous aurez rien.
Je suis d'accord avec Claire. Faut faire pression sur Utility. Arriver à rassembler tout le monde. Faire que ça crée un problème social et politique au niveau de l'État.
Faire pression ? Pour obtenir quoi ?
Le maximum. Faire reculer le plus possible les dates des licenciements. Obtenir une indemnisation la plus large possible. Avec le maximum de garanties.
Déjà, on fait aucun truc dans le dos. On signe une charte. Pour que l'accord avec la direction soit valable, il faut la totalité des signatures des syndicats. Sinon, l'accord est caduc.
Ben voilà quelqu'un qui a de l'ambition.
Ouais. Dans tous les cas, on pourrait en parler à l'Assemblée Générale demain.
Je voudrais aussi rappeler les 8 de Goodyear qui ont pris de la prison ferme en 2016. Et les Conti qui sont encore en procès.
Quand on dit qu'on va se battre, faut s'attendre à prendre des coups.
Aujourd'hui, dire non, c'est avoir l'État contre soi. Et la justice d'État contre soi. Vous avez déjà vu un juge obliger un patron voyou à rouvrir une usine ?
Samia a raison, il y a une criminalisation de l'action syndicale qu'il n'y avait pas avant.
Ils nous traitent comme si on était des délinquants.
On pourrait demander de l'aide aux Conti. Eux, ils avaient Roland Spirko avec eux, un gars des usines Chausson. Ils sont allés aider les Goudières. Ils nous aideront, nous.
On sait comment ils ont fait, eux.
Ils avaient organisé un comité de lutte. Nous aussi, on devrait faire ça.
Le comité de lutte, c'est pas compliqué. C'est hors syndicat. On construit un groupe, un collectif de personnes qui veulent se donner à fond dans l'orchestration du mouvement. Tout le monde peut venir. Le comité décide de tout ce qu'on va faire. Ensuite, il expose ses propositions aux assemblées et les assemblées décident si elles acceptent ou pas.
J'en suis.
Moi aussi.
Ben alors, si on est déjà aussi nombreux, c'est un bon début, non? Hein?
Je l'entends, le pauvre. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux. Il se tourne, se retourne. Il roule jusqu'au bord du lit et essaie de se lever le plus doucement possible, une jambe après l'autre. Il se redresse, la tête lui tourne. Je lui caresse le dos. Il me sourit dans le noir. Il est 4h30 du matin, on navigue tous les deux au milieu de la nuit à la dérive. Il grommelle un truc sur un papier à trouver, attrape un gilet, descend les marches sans faire de bruit. La troisième craque. Notre fils tousse dans la chambre d'à côté. Je passe mes nuits à calculer. S'ils ont une prime de licenciement, s'ils en ont pas, est-ce que je pourrais faire plus d'heures? Non, ça vaudra pas le coup si je paye une nounou. Est-ce qu'on devra déménager? Est-ce qu'on pourra rester dans le même quartier pour pas perdre l'école, le collège, les copains du petit? On était tellement fiers que le grand fasse médecine. Est-ce que c'est pas de la folie? En bas, il soupire. Toutes ces paperasses, les masses et des masses d'articles de loi, de mails, de lettres recommandées. Des vies réduites à ça, du papier qui va se coller à d'autres papiers pour faire un dossier. Et ce dossier va s'agglutiner à d'autres formulaires, demandes, justificatifs. Quand il était jeune, il n'a jamais laissé passer une injustice. Mais à l'époque, c'était un bon coup de poing au milieu de la figure et c'était marre. Aujourd'hui, les gens tuent à coups d'alinéa. De limite d'âge, de pourcentage de pollution autorisée. Je l'entends qui farfouille. Je crois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Au supermarché, j'ai croisé Teddy. Il a tourné la tête. Il a regardé du côté des cotons-tiges. Teddy ne vient plus aux âgés. Il ne s'habille plus tellement non plus. Il porte un jogging pas tellement frais qui lui sert aussi de pyjama. On est retombé nez à nez au rayon céréales. Il m'a regardé au travers, comme si j'étais devenue invisible. Bon Dieu, Teddy, qui nous a invités 150 fois avec les gosses à ses barbecues sous la pluie, qui a fait le cheval pour notre petit Denis, que j'avais rabiboché avec Kenza quand elle était allée voir ailleurs. Teddy, qui prend des neuroleptiques et regarde ses pieds. Quelle connerie! J'ai répété « Bonjour, Teddy Lavoigny !» Il s'est mis à hurler. « Casse-toi, j'en ai assez de tes discours, casse-toi. Je veux plus rien entendre de toi. Vous êtes bien foutus de notre gueule tous. Ça, quand il faut du monde pour les manifs, ça, on sait où nous trouver. Et après, vous en foutez de ce qu'on vit, vous en foutez. » J'ai rien compris. J'ai commencé à pleurer. Je m'en suis voulu de pleurer, être une femmelette comme ça. On lui crie dessus, elle pleure. Alors que j'aurais dû lui dire mais qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Après, j'ai su. Kenza est partie. Il se retrouve tout seul dans l'appartement avec les travaux pas finis. Il n'en peut plus de voir ses murs, mais de l'autre côté, il supporte plus les gens. Il pense qu'il ne retrouvera pas de travail. Au dernier entretien d'embauche, il s'est mis à trembler, mais il n'a pas été pris. Je descends l'escalier. Il ne relève pas la tête. La table est couverte de dossiers. 1300 dossiers. 1300 personnes. Combien s'en sortiront? Et nous? Est-ce qu'on s'en sortira?
Voilà, depuis 5 mois que dure le conflit, ils ont sorti un calendrier, fait visiter l'usine comme un musée, avec la momie du dernier ouvrier de France, enregistré une chanson...
Ils font du bruit, c'est du bon de guerre. Financièrement, ils tiennent comment?
Avec l'argent du CE. Ils ont revendu des terrains et ils ont distribué des chèques cadeaux avec ce qu'ils ont récolté.
Ils peuvent tenir encore longtemps?
Ah, ça c'est difficile de prévoir. Heureusement pour nous, les fédérations syndicales nationales ne les soutiennent absolument pas. Mais ils ont une gestion au cordeau. Et ils vendent des donuts de solidarité qui ont pu leur apporter un peu d'argent.
Ils sont populaires, mais ils vont s'essouffler.
L'exemple des Conti a fait beaucoup de mal en France.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Les Contis sont un épiphénomène. Ce qui s'est passé à Clairoy ne pourrait pas se reproduire.
Enfin bon, là on les attend à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Ils sont 8000 dans la rue. Allemands et Français confondus.
Quelles sont leurs intentions, à votre avis ?
Eh bien, ils vont faire un discours, comme avaient fait les Contis. Ich bin ein Arbeiter. Et tout le toutim. Ils veulent mobiliser les petits actionnaires en dénonçant la fermeture d'usines rentables.
C'est peine perdue. Tout le monde sait que la seule façon de récupérer de l'argent rapidement, c'est de réduire la masse salariale pour faire monter le prix de l'action.
Médiatiquement, c'est ennuyeux. Plus les révélations du canard enchaîné sur l'optimisation fiscale via les paradis fiscaux...
Ils ne sont pas sans savoir que la concurrence dans le secteur des équipementiers automobiles est sans merci, avec un fort contexte récessif et un déplacement des bassins de nouveaux consommateurs vers l'Asie.
Ils ne sont pas sans savoir que le groupe a versé des bonus à 6-0 à certains actionnaires.
Cela peut paraître excessif au grand public, mais les actionnaires sont rémunérés à la hauteur de la prise de risque qui représente leur investissement dans le groupe.
Bon, Ariane, un trêve de langue de bois. Nous nous connaissons depuis combien de temps ? Je ne suis qu'un petit DRH français et vous la directrice Europe du groupe. Mais votre scénario n'a pas inclus la possibilité d'un embrasement.
Ce serait envoyer un très mauvais signal si nous reculions face à leur pression. Cela ne va pas se résoudre à coup d'arguments. C'est un pur rapport de force. C'est tout. Malheureusement. Néanmoins, je verrai avec les pôles financiers s'il y a moyen de rallonger l'enveloppe allouée au départ en pré-retraite.
Il y a autre chose. 2 semaines avant la fermeture de l'usine, j'embauchais 130 intérimaires. Est-ce qu'il y aurait moyen de reclasser les plus jeunes, les plus mobiles, dans d'autres usines du groupe, en Europe ?
Nous pouvons leur faire une offre en Roumanie. Oh. Utility encourage l'emploi en Europe. Ne faites pas cette tête.
Le procès ne vous inquiète pas non plus ?
Au contraire, c'est long, un procès. Ils sont au sommet de la vague, mais tout va retomber. C'est une question de temps.
Je me lève sans faire de bruit. D'abord une jambe, puis l'autre. La tête me tourne. Il fait encore nuit noire. Je ne me regarde pas dans le miroir au-dessus de l'entrée. Je passe comme un fantôme. Un fantôme rasé de frais. Cheveux grisonnants, poche sous les yeux. La chemise impeccable, dos fatigué. Je me glisse dans la cuisine. Je prends la bouteille sous l'évier. Le bruit minuscule du dévissage emplit toute l'épaisseur de la nuit. Je bois directement au goulot. 3 gorgées. Et je pose. L'obscurité a quelque chose de rassurant. Dans l'obscurité, je ne vois pas mon reflet dans la vitre. Je ne vois pas qu'il n'y a personne autour de moi. Bien sûr qu'elle est partie. Qui a envie de coucher avec une usine en faillite. J'arrive sur place à 7h du matin. Il y a toujours 2 hommes qui gardent l'entrée de l'usine, 2 piquets de grève. Ils me reconnaissent et me laissent entrer. Tout est désert. La réunion ne commence qu'à 9h, mais j'aime bien préparer à l'avance. Les grandes batailles se reconnaissent à une densité du silence, à une raréfaction de l'air. Je relis les dossiers. Je suis tenté de reprendre une gorgée. Ma main caresse la flasque dans la poche de ma veste, mais je garde le contrôle. C'est trop tôt. J'irai aux toilettes tout à l'heure. Je dévisserai la flasque sans bruit. Je me donne droit à 2 gorgées, puis un coup de pchit ou de gomme à la menthe pour sentir le frais. À 11h30, toujours loin des repas, pour que l'effet soit décuplé. Mais 11h30, c'est loin. La réunion vient de commencer, les syndicats attaquent sec. Samia Sommé a pris la parole. Qu'est-ce que je ne l'aime pas, celle-là, avec sa façon de me regarder comme si je l'ai noyée un à un dans les toilettes de l'usine. Je ne peux plus la supporter. J'ai trop chaud. Mon corps tape, vibre de douleur. Je me concentre. Invoque un paysage. J'ai 7 ans. Et je garde les chèvres. Voilà. Je suis dans les Pyrénées. Le soleil est frais, je grimpe sans effort, je vois les petites chèvres carillonnant sur le sentier. J'entends dans la futaie au loin les bergeronnettes. Si tu savais, Samia, à quoi je pense pendant que tu exposes les revendications et les demandes de tes soi-disant camarades, Tu me parles et j'entends bé, bé. Les bêlements des petites chèvres devant moi. Tu ne le sais pas, mais la direction européenne a déjà prévu de faire venir une DRH extérieure. Entre nous, dans le métier, on l'appelle Terminator. Je l'ai rencontré. C'est une vieille Barbie momifiée au Chanel qui se fait payer des ponts d'or pour utiliser des méthodes de barbouze. Espionnage des représentants du personnel, intimidation. Plus c'est moche dedans, plus ça brille dehors. Après tout ça, je partirai. J'irai élever des chèvres dans la montagne. Et je me trouverai une petite chevrière à la peau fraîche. Une petite chevrière qui voudra bien d'un vieux bazar comme moi. Ma tête posée sur ses cuisses. Tu me parles, Samia ? Je sens que très bientôt trois gorgées le matin ne suffiront pas. Qu'une flasque par jour, ce sera peu. Mais je peux durer longtemps. Longtemps comme ça. Et c'est ce que je dois faire. Durer.
Samia, viens. Samia, viens, viens. On peut plus accéder à l'entresol, il y a Sorel qui s'est enfermé en bas. On pense qu'il veut tout faire sauter, qu'il a pris le DRH avec lui, mais lui, il veut pas parler. Rien, on sait pas ce qu'il fait, on sait même pas où il est.
Il est là où ça brûle le mieux dans l'usine.
J'ai toujours dit qu'il avait un problème, ce gars-là.
Mais t'es con.
Allez, viens, il t'écoutera, toi.
Ouais, ma gueule, il m'écoutera. Et s'il m'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? T'en as de bonnes, toi.
Qu'est-ce que t'as? Tu veux rester là?
Oh, j'en ai plein le dos des dingues, moi. Le DRH qui se met à bêler au milieu des négociations, maintenant Soral qui part en vrille.
T'inquiète, j'ai lu ton horoscope, il est bon.
Oh, ta gueule, toi.
Juste quand l'équipe de France 3 vient d'arriver. On peut pas le laisser comme ça, allez. Ah, je viens avec toi. T'entends?
Non, quoi?
Il n'y a plus rien.
Ça pue la mort, cet endroit.
Attends. Attends, ça peut être dangereux, cet endroit. Je viens avec toi.
T'es gentil, Pupus, mais casse-toi. T'es la CFDT. Si tu viens, il fait tout péter direct. Merci pour le coup de main. Oh, pépère, tu me laisses entrer, oui? Si tu fais tout sauter, je saute avec toi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, faut que je sois à la sortie de l'école à 4 heures aujourd'hui. Oh, tu m'entends? T'es là? Ouvre-moi. Tu te souviens quand je suis arrivée à l'usine le premier jour? C'est avec toi que j'ai commencé. Ils me faisaient tous grave chier, t'as rien dit. Tu m'as montré le boulot. Je sais qu'on peut compter sur toi. T'étais content quand on a signé les 40 heures sans augmentation de salaire? Quand on a signé la flexibilité? 28 dimanches travaillés par an payés comme des lundis? Quand on a eu le marché des Thaïlandais que leur usine a fermé? T'étais content? Tu t'es dit on coûte moins cher que les Chinois, c'est bon ça? Tu t'es pas dit qu'avec ces 24 milliards de chiffre d'affaires, le groupe aurait pu garder toutes ses usines? C'est notre trésor de guerre que tu vas faire sauter. Si tu fais ça, il ne reste plus rien pour négocier. Tant qu'on tient les machines, tant qu'on tient les stocks, ils ont peur. On est assis sur un petit tas de pognon. Et ce petit tas, ils ne veulent pas le laisser partir. Même s'ils ont un tas de pognon beaucoup plus gros. On va leur faire cracher leur pognon. Et leur pognon, c'est leur vie. Ils ne peuvent pas s'en passer. On va partir avec un petit bout de leur pognon. Un tout petit bout. Mais ce petit bout qui leur manquera, ils vont le sentir toute leur vie. Ils penseront pas aux milliards qu'ils ont accumulés, non. Ils penseront à ce petit bout-là, celui qu'on va leur prendre. Ils y penseront la nuit. Ils se relèveront pas pour Mourad qui s'est foutu sous un train, ou pour Eliane, pour toi, pour moi. Ils se relèveront pour le petit bout qui manque. On va tout faire sauter, Soral. On leur passera rien. Ni les cancers, ni les divorces, ni les suicides, ni les huissiers, ni les colis de secours populaires, ni les gamins qui se couvrent d'eczéma tellement ils ont la trouille pour leurs parents. Si les Conti l'ont fait, nous, on peut le faire aussi. Et ça, ça leur fiche vraiment les jetons. Ouvre-moi, j'ai besoin de toi. Ouvre-moi. Pas mon salaud, comment tu t'es mis? Viens, on va arranger ça. Puis t'as les mains en sang. Viens. Tu vas parler, Soral. Cette fois, crois-moi, tout le monde va écouter ce que t'as à dire.
Et je voulais vous remercier tous pour ma nomination au poste de chargé de mission sur les nouveaux outils transactionnels. Depuis que je suis arrivé ici au siège, j'ai déjà pu vérifier combien l'ambiance est cordiale et combien le whisky est de bien meilleure qualité. Bon, j'espère que je saurai apporter au groupe Utility mon expertise pendant encore de longues années. Voilà, merci. Bravo.
Ça nous a fait beaucoup de tort. Le direct avec l'ouvrier désespéré.
Celui qui s'était recouvert de noir.
Oui, de silice. C'est toxique.
C'était très impressionnant, ce visage noir. On ne voyait que ses yeux. Et quand il parlait...
Oui.
J'ai rêvé que tout ce que j'ai touché se transformait en cendre. Les paquets d'actions. Les contrats. Les bijoux. La maison, la route sous mes pieds, jusqu'au moment où je me rendais compte que j'étais moi-même remplie de cendres, que j'étais ma propre urne funéraire. Les gens nous perçoivent comme des monstres obsédés par le profit. Mais si nous baissons la garde, ne serait-ce qu'un instant, nous serons dévorés par Goodyear ou un autre. Et alors, ce ne serait pas une seule usine que nous fermerons. Vous pouvez bêler. Malheureusement, personne n'est assez fort pour changer les règles de jeu.
Excusez-moi, mais vous me marchez sur les pieds.
Ou alors vos pieds sont mal placés. Tenez, il vous appelle. Allez-y, c'est votre jour.
Oui, oui.
Camarades, après 15 mois de bras de fer, la direction a fini par céder.
C'est bon, ça marche. Voici l'accord qu'il nous propose de signer. Je vous invite à le lire.
Tu l'as lu, Samia ?
Tout y est.
Ouais.
Le montant de la prime de licenciement, les modalités...
On a gagné ? On a gagné quoi ? Ouais. Avec nos licenciements, l'action est passée d'€ 90 à 190 euros. C'est le même taux de rentabilité que l'industrie de luxe. Ça me dégoûte, tiens. Allez, râle pas, ma belle. On le sait bien que c'est pas pour demain qu'on fera du bénévolat à 15 000 euros par mois.
Et il va falloir retrouver une turne. Avec les gueulantes qu'on a poussées, ils vont pas se bousculer au portique, les employeurs.
Mais ça nous laisse un peu le temps de voir venir.
On a gagné. On a gagné quoi? Des nuits sans sommeil? Le chômage qui dure? Les copains qui font empêcher de couler?
On a gagné de connaître notre force.
Quand même, quand tu penses qu'on était 1300 bonhommes dans cette baraque, on a des beaux souvenirs quand même.
Des moches et des beaux. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant?
J'ai pensé à assistant maternel. J'aime bien les gosses. Mmh. J'ai géré 15 mois de négociations avec un comité de lutte bien remonté. Mmh. Et les couches, ça me fait pas peur. Je devrais y arriver. Je leur apprendrai 2-3 trucs dès le berceau. J'ai postulé pour une formation. Et toi, tu vas faire quoi?
Ouvrir un bar.
Et voir le fond de commerce.
Et toi, tu vas faire quoi?
Je vais me coucher dans l'herbe, sous un arbre, et regarder filer les nuages avec mes gosses qui jouent pas loin. Fermer les yeux, penser à rien.
Oublié jusqu'au mot Pôle emploi. Tu vois?
C'est pas un boulot, ça.
Faudra l'inventer. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux.
C'était vécu Après les contis de Marie-Annick Bellon avec Marie-Bénédicte Jean, Dominique Parent, Hassan Timbo, Garance Sansigo, Slimane Yefsa, Bibi Jacob. Et les voix de Marie-Annick Bellon, Vladimir Perrin, Tibor Radani. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Amandine Grévoz, Jean-Richard Dufour. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Laurence Courtois. Merci à Pierre Sommet, Roland Spirco, Dominique Olivier.
Il y a dans tes yeux comme un air curieux, il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Bien sûr, c'est dur d'être heureux. Le bonheur se cache souvent. Ne nous effleure que quand il veut. Peut-être parce qu'il est méfiant, peureux, craintif ou défaillant. Preneur de tangentes et déviant. Il nous complice d'un jet tournant. C'est vrai, c'est vrai. Pour le bonheur, s'il vous plaît. Bien sûr, on se cache pour pleurer. Bien sûr, rien n'est moins sûr que la vérité. Elle assassine sans tuer et laisse à vif écorcher. Y'a trop de froideur dans trop de foyers. Tant de bassesse et d'aigreur pour nous fourvoyer. Peut-être qu'on fuit la vérité. C'est vrai, c'est vrai. La vérité, la vérité. Il y a dans tes yeux comme un air. Parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Bien sûr, la vie est hasardeuse, tellement trop courte et capricieuse, injuste, odorante et visqueuse. C'est peut-être une autostoppeuse, déroutante, excitante, farfelue et farceuse, jonchée d'épines et de courbes délicieuses. Peut-être même que c'est une chieuse. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr que la vie est précieuse. Bien sûr, être seul, c'est rude. Bien sûr, à deux, on est plus fort. Bien sûr que j'y crois encore. Bien sûr que l'amour est plus fort que la mort. Y'a des doutes et des coudes qui perdent sur nos fronts. Des certitudes écœurantes qui nous plombent vers le fond. Peut-être qu'on est des bouffons. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne veux plus être un pigeon. Dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça.
Actualité également sociale aujourd'hui, puisque l'on a appris que 500 salariés de Continental à Clairoix dans l'Oise ont tous reçu une lettre de proposition d'emploi, de reclassement. Seulement voilà, on leur parle d'aller travailler dans une usine en Tunisie et pour 137 euros bruts par mois. Yannick Le Gall, Gilles Bezou.
On m'offre 137 euros bruts sur 13 mois.
Pour aller travailler où ?
En Tunisie. Non, c'est pas une blague, tout est là, tout est sur le papier. Voilà, signé Monsieur Blorvac, directeur des ressources humaines, voilà, et Monsieur Forzi également. Alors je sais pas, ils ont dû se tromper ou alors ils se foutent de nous.
250 dinars, soit 137 euros bruts par mois pour la Tunisie, c'est l'offre de la direction qu'ont reçu 500 salariés de Clairois. En ouvrant leur courrier, la plupart a cru à une mauvaise blague.
Je pensais qu'il y avait une caméra cachée et qu'on voulait voir ma tête, parce que c'est une énorme plaisanterie, quoi.
Du coup, près de 350 salariés se sont retrouvés devant leur ancienne usine pour montrer leur colère et pour bien faire comprendre à leurs dirigeants qu'ils n'en resteront pas là.
S'il faut la Sarreguemines, vous êtes tous d'accord, on y va ?
Ouais !
S'il faut aller à Altédia bloquer le bordel, on y va !
Ouais !
S'il faut rebloquer l'usine, s'il faut empêcher que ça sorte, on va empêcher que ça sorte !
Ouais !
France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, après les Conti, notre invité Pierre Sommet, ancien secrétaire du comité d'entreprise de Continental.
Je m'appelle Pierre Sommet, j'ai 50 ans, je suis en couple, ni marié ni paxé. J'ai deux enfants, j'ai une fille qui est à la faculté d'Amiens en licence d'anglais. J'ai une autre fille qui s'appelle Romane, qui a bientôt 13 ans et qui est en cinquième. Je suis originaire d'Hirson dans l'Aisne et je suis venu dans l'Oise à cause du manque de travail dans l'Aisne, qui était déjà très sérieusement sinistré il y a quelques années. J'ai été embauché à Continental en 1988 en tant que confectionnaire et j'ai été licencié une première fois en 2010 suite au plan social de Continental. J'ai demandé ma réintégration et j'ai été réintégré en octobre 2010 et j'ai continué à suivre le plan social jusqu'au dernier jour, étant donné que j'ai fini pratiquement tout seul au niveau des locaux syndicaux.
Bonjour Pierre Sommet, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce que vous venez de dire m'amène à vous poser cette question simple mais évidente. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
J'ai eu beaucoup de problèmes pour retrouver du travail. Car j'étais un petit peu carbonisé dans tout ce qui est l'industrie. Étant donné que, vous savez, les grosses usines comme ça, les gens qui se révoltent n'en veulent pas. J'ai travaillé 3 mois au CROUS, c'est-à-dire dans les logements étudiants. Et depuis quelque temps, je travaille dans une mairie à la commune de Lassigny depuis 4 mois. Car c'était un maire socialiste qui m'avait promis du travail. Et c'est l'un des seuls qui a tenu sa promesse, quoi.
Comment vont Aurore, qui a 19 ans, votre fille qui est en licence d'anglais, et Romane, qui va bientôt avoir 13 ans, qui est en 5e. Je vous pose la question parce que vous confiez, je me suis fait l'écho de ce que vous disiez dans une interview, qu'avec les enfants, c'était pas facile, en tout cas au début. Comment ça va maintenant ?
Ah, tout au début, c'était très difficile. Vous savez, on a voulu les épargner au niveau de l'annonce de la fermeture de l'usine. Mais bon, à l'école, tout le monde, vous savez, c'est tellement énorme, la fermeture de l'usine de Clairoix, que les enfants parlaient. Maintenant, ma fille Aurore a 19 ans. Quand l'usine a fermé, c'était 8 ans en arrière. Donc, elle était tout petite, elle avait 11 ans et Romane avait 4 ans, quoi. Donc, voilà. Maintenant, j'ai retrouvé quand même du travail. Donc, déjà pour moi, psychologiquement, c'est beaucoup mieux. Et puis, ils travaillent très bien à l'école, tout ça. Donc, voilà, ils vivent leur petite vie. Ils ont connu, des années assez difficiles. Car j'étais tous les jours aux locaux syndicaux pour soutenir mes collègues, aider les gens, quoi. Voilà, ils m'ont vu. Surtout qu'avant, je travaillais en week-end.
C'est ça quand elle disait, on le voit pas souvent, mais effectivement vous aviez du pain sur la planche. Où en sont les 1120 salariés licenciés de chez Conti, vos collègues ?
Bah écoutez, comment avant j'avais des points avec Pôle emploi, la directe, tout ça, donc ça c'est terminé depuis pratiquement 2 ans, donc on avait des points réguliers pour savoir ce que devenaient les gens. Mmh. À l'heure actuelle, les derniers chiffres, c'était à peu près 500 personnes qui avaient toujours pas de boulot, beaucoup qui étaient tombés à l'ASS, donc allocation de solidarité. Ça a peut-être évolué, mais bon, j'en croise régulièrement qui n'ont toujours pas de travail, qui ont beaucoup de difficultés à rebondir, quoi.
Mais même quand on a un travail, est-ce que c'est difficile? Enfin, j'imagine que c'est difficile d'oublier les moments heureux, les moments heureux d'avant, quand tout allait bien, on était ouvrier chez Conti, c'était une chance, on avait un travail, on voyait les copains, il y avait une vie sociale autour. Même quand on a retrouvé du travail, il y a une nostalgie de cela.
Oui, c'est sûr, avec les collègues de travail, c'est clair qu'il y a une nostalgie. Puis moi, je peux pas oublier 8 ans de combat contre cette multinationale, quoi. Non. On se rend compte tout le temps. On a des fois, on a toujours le comité de lutte qui existe toujours. Il y a pas très longtemps, on avait fait une fête à Margny-lès-Compiègne, une fête de fin de conflit. On avait fait venir les Fatales Picard, quoi, pour marquer le coup, comme quoi que c'était un peu la fin, quoi. Mais bon, on a toujours des dossiers au prud'homme, donc voilà. En vrai, on est toujours dans. je m'occupe toujours des gens, quoi.
Les Fatales Picard, hein, c'est un groupe de musiciens et de chanteurs à texte, hein, c'est ça, hein, Fatales Picard.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, comment se passe? Il y a peut-être une ambiguïté ou quelque chose peut-être difficile à comprendre psychologiquement. Ce genre de lutte sociale, évidemment, vous vous en seriez bien passé. Hein, vous auriez préféré que Conti continue, si je puis dire, et que vous continuiez à toucher votre salaire. Mais une lutte comme ça, est-ce que ça ne déclenche pas quelque part une adrénaline? Je dis encore, c'est pas un choix, hein, c'est parce que la situation est là, mais quelque chose de fort quand même.
Ah si, très très fort. Mais vous savez, moi j'étais pas préparé à gérer un conflit comme celui-là. Bon, gérer entre parenthèses avec mes collègues, avec Monsieur Roland Spirko, Xavier Mathieu et tout ça. Et on n'était pas préparé. Quand ça nous a tombé dessus, c'était une catastrophe pour nous. C'est pour ça que Monsieur Roland Spirko est venu nous donner un coup de main. Roland Spirko avait déjà une certaine expérience. Il avait fait un gros conflit qui était Chausson. Et c'est lui qui nous a coachés et comment aider et qui nous aide encore à l'heure actuelle.
Est-ce que vous êtes senti soutenu par la presse, même si le rôle de la presse n'est pas de soutenir les uns ou des autres, hein, c'est de rapporter les faits, les analyser éventuellement. Est-ce que le fait que la presse ait couvert votre lutte, ça a été une aide, ça a été quelque chose de fort pour vous?
Ben oui, ça a servi à la médiatisation de notre combat. Oui, et puis après on a eu on a connu des gens. Bon, François Picardie, tout ça. Maintenant, je connais tous les journalistes. Ça a été bon. Il y en a qui voulaient du voyeurisme. Combien il y a de suicides, tout ça. Bon, ceux-là, on les a envoyés un petit peu sur les rosses. Que c'est pas ça. Nous, c'est une lutte. Nous, le but, c'était pas la fermeture de l'usine. C'était garder notre outil de travail, faire perdurer. Parce que non seulement nous, mais les générations futures qui auraient pu travailler dans cette usine, qui dégageait des millions d'euros de bénéfices, hein, c'est ce qu'il faut pas oublier.
Ah justement, j'en arrive à ma question. À qui en voulez-vous? Aux actionnaires? Aux politiques? À qui?
Aux politiques, aux actionnaires, parce que les politiques, vous savez, ils venaient devant l'usine pour se reprendre en photo, pour dire voilà, comment on soutient les Continentales. Bon, il y en a qui nous ont sérieusement aidés, hein, au niveau politique. Mais voilà, il y en a, c'était plutôt pour être sur la photo avec nous, pour être médiatisé, quoi.
Pierre Sommet, on va se retrouver dans 3 minutes et continuer de parler de cette affaire des Conti qui a eu un écho très fort, hein, tout de même, tout à l'heure.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school.
They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Pierre Sommet, vous étiez donc aux premières loges de ce conflit chez les Conti, puisque vous-même, vous avez perdu votre travail avant d'en retrouver un autre. Reprenons la chronologie du conflit. À quel moment, avec une question précise, à quel moment comprenez-vous que le danger de fermeture est réel? Parce que j'imagine qu'on ne vous le dit pas au début. On vous dit, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est probablement pas très précis tout ce qu'on vous dit. Et à un moment, peut-être, vous vous dites, là, c'est vraiment mal parti, quoi.
Écoutez, non, moi j'ai rien senti, puisqu'il y a des années antérieures, des fois il y avait des baisses de production, donc on faisait du nettoyage dans l'usine. Bon là, ça commençait à durer un peu trop à mon goût, et l'annonce de la fermeture de l'usine, on l'a pris comme un coup de massue. Hein. On a été convoqué à un CE extraordinaire dans les locaux de l'usine. Moi, je finissais nuit, on m'avait appelé à 8h du matin pour que je me rende à ce CE extraordinaire, et quand on nous annonçait la fermeture de l'usine, il y avait des traducteurs allemands, il y avait un allemand qui était là, un directeur allemand, et ça nous est tombé comme un coup de massue, quoi. On ne se doutait pas du tout qu'ils allaient annoncer la fermeture de l'usine.
Quelles ont été les réactions? Il y a des gens qui étaient abasourdis, d'autres qui ont hurlé, comment ça se passe?
Il y en a qui ont hurlé. Moi, j'étais complètement stoïque. Comme si j'avais pris un coup de massue. Je savais plus où j'étais.
Alors, vous avez dû vous sentir trahi quand même, parce que je crois qu'à un moment, vous avez accepté, dans les négociations, de passer aux 40 heures sans augmentation. Vous avez dit oui, mais puis finalement, ça s'est mal terminé. Qu'est-ce que vous avez ressenti là, à ce moment-là?
Moi, je n'ai jamais dit oui. Mes collègues de la CGT, de Force ouvrière et d'autres syndicats n'ont pas dit oui. Ils se sont servis de la CFE-CGC et de la CFTC pour avoir 51% de voix. Parce qu'avant, il y avait eu un référendum qui avait été refusé par le personnel. Donc, ils l'ont passé en force, en vrai. Travailler plus pour gagner Paris.
Est-ce qu'il y a une deuxième douleur, une première face à ce qui arrive et face aux responsables de ce qui arrive, est-ce qu'il y a une deuxième douleur qui, elle, est générée par les divisions, peut-être dans la lutte en fonction des syndicats, en fonction des ouvriers qui décident telle chose et les autres de ne pas suivre?
Bah écoutez, au début c'était très très mal parti, comme je vous dis, déjà en temps où l'usine fonctionnait normalement, il y avait déjà des divisions syndicales, donc personne ne s'entendait. C'est pour ça que monsieur Roland Spirko est arrivé, et lui il nous a mis tous autour d'une table, et il a dit maintenant si vous voulez vous battre, c'est ensemble et pas l'un contre l'autre. Et on avait signé une charte entre tous les syndicats, pour dire que s'il y avait des négociations et s'il y avait une signature au plan social, ça serait la signature de tous, ou s'il en manquait une, l'accord serait caduque. Donc voilà, comme ça, ça a mis tout le monde dans le bain, quoi, direct. Ouais.
Vous avez reçu cette lettre, vous, dont on vient de passer l'archive, là, en Tunisie, pour un salaire de misère, vous l'avez reçu cette lettre?
La totalité du personnel l'a reçu, c'est plus que 500, hein. C'est la totalité des gens qui travaillent à Continental qui l'ont reçu. Et ils sont obligés de faire, c'est une obligation pour l'employeur de faire des propositions. Donc, c'était pour pas se faire attaquer au niveau juridique. Ils savaient qu'il allait avoir un tollé monstrueux, mais ils étaient obligés de l'envoyer. C'est pour ça que, bon, je l'ai su après ça.
Mais comment vous avez réagi quand vous avez ouvert le courrier?
Moi qui étais en réunion toutes les semaines avec la direction, j'aurais demandé s'ils ne nous prenaient pas pour des ânes, quoi, voilà. Et en plus, ce salaire était inférieur au SMIC là-bas.
Ouais.
Pour vous dire qu'ils avaient fait fort, quoi. Un salaire inférieur au SMIC dans ce pays, quoi.
Alors, l'usine a été délocalisée en Roumanie. Coût de la main-d'œuvre et du travail moins cher, bien sûr. Un pneu coûte à fabriquer hors matière première 5,30 € en Roumanie, alors qu'il coûtait 12 € à Clairvaux. Alors, évidemment, ça génère des marges plus importantes. On connaît le processus. Mais alors, quand on est victime de ce qu'on appelle la mondialisation, est-ce qu'on est encore plus amer envers les ouvriers qui vont reprendre le travail dans les conditions proposées en Roumanie?
Ah non, mais moi je suis pas amer contre les gens, faut qu'ils mangent aussi, hein. C'est pas ça, c'est l'Europe, c'est que voilà, c'est comment il faudrait une harmonisation des salaires, parce que l'Europe comme on la vit maintenant, c'est une catastrophe pour tout le monde, quoi. Si les salaires seraient équivalents dans toute l'Europe, il y aurait déjà moins de délocalisation, et Continental avait budgété 37 millions d'euros pour fermer l'usine des Clairvaux, et ils sont à 300 millions d'euros. Donc là, je crois que leur copie, ils auraient dû la revoir avant, parce que l'argent qu'ils ont mis dans le plan social, c'est la masse salariale de l'ensemble du personnel jusque maintenant.
Pierre Sommet, on l'a vu à Florange, quand une usine importante ferme, c'est tout un pan de l'activité locale qui est touché, donc ça peut-être été la même chose à Clairvaux, je pense aux sous-traitants, aux commerçants, vous aviez des contacts avec eux, vous vous sentiez soutenu par eux?
Écoutez, non seulement on sentait soutenu par eux, mais ils étaient dans la même situation que nous, parce que beaucoup des sous-traitants ont perdu leur emploi en même temps que nous, sauf que eux n'ont pas bénéficié du plan social et des négociations de Continental. Donc je crois que tous ces gens-là, c'était encore pire pour eux.
Depuis la fermeture de l'usine, vous regrettez quelque chose? Je veux dire, pensez-vous que c'était une fin inéluctable, malgré votre combat, que vous avez tout fait pour essayer d'inverser le destin et la tendance, mais qu'en fait, le combat contre la finance, c'est le combat de David contre Goliath, quoi?
Écoutez, nous, on avait perdu au niveau du tribunal de Sarreguemines, et donc ça a déclenché le plan social, contrairement à Goodyear qui, eux, avaient gagné leur premier procès et qui leur avait permis de durer quelques années en plus, quoi. Nous, c'était inéluctable, il fallait qu'on se batte pour partir dignement et mettre nos familles à l'abri pendant quelques temps, quoi.
Merci infiniment Pierre Sommet. Merci également à France Bleu Picardie, puisque vous étiez accueilli dans ces studios. Donc merci pour leur accueil. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Après les Conti, une fiction écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet.